RFI 9h à Paris, 7h en temps universel.
RFI Matin.
Martin Guez, toujours pas de trêve à Gaza et encore des tensions à Jérusalem.
Des milliers de nationalistes israéliens ont défilé, drapeau de l'État hébreu à la main hier. Et s'en sont pris aux commerçants palestiniens de la vieille ville. Des nouvelles violences également subies et dénoncées par des citoyens israéliens, vous l'entendrez. Alors que l'émissaire de Donald Trump annonce lui que le Hamas n'a pas accepté la proposition de trêve américaine qui comprenait 70 jours de cessez-le-feu, des libérations d'otages et de prisonniers. Suite de la visite en Asie du Sud-Est d'Emmanuel Macron, le président français quitte aujourd'hui le Vietnam pour l'Indonésie. Et puis Elon Musk quitte lui bientôt son poste à la tête du Doge, le département de l'efficacité gouvernementale américain. Le patron de SpaceX qui s'éloigne de Washington et s'en va avec un bilan mitigé. On y reviendra dans la longueur avec Guillaume Nodin. Bassirou Diomaye Faye accueilli comme chez lui en Guinée-Bissau. Première visite d'État d'un président sénégalais chez son voisin depuis l'indépendance du pays en 1973. Et puis enfin, sur les cours de Roland-Garros, tout le monde voudra voir aujourd'hui et voudra percevoir João Fonseca, ado brésilien au succès fulgurant, portrait du gamin de 18 ans en fin de journal.
Insultes, altercations et tensions sur le chemin de la marche des drapeaux.
Journée annuelle à Jérusalem, régulièrement marquée par des débordements. Des milliers de nationalistes israéliens ont défilé, y compris dans la vieille ville, en brandissant des bannières de l'État hébreu et en scandant des chants appelant au meurtre des Arabes. Cette marche célèbre la réunification de la ville et la prise de sa partie orientale en 1967. Une annexion non reconnue par la justice internationale. Hier, des habitants et commerçants palestiniens ont été violentés, mais aussi des militants israéliens des droits de l'homme. Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer les violences et à porter assistance aux Palestiniens. Notre correspondante Amira Sulem a rencontré l'une d'entre eux.
Téléphone brandi discrètement, Sharon Casper, la trentaine, filme les défilés dans la vieille ville.
On a vu un vieil homme et son fils être attaqués. On a été attaqués quand on a essayé de s'interposer. On a vu de vieilles personnes qui essayaient de passer et qui tremblaient. Beaucoup de personnes ont rebroussé chemin. On a vu des personnes saccager des boutiques. On a senti les gaz lacrymogènes. On a humé les gaz lacrymogènes. Et puis on a entendu beaucoup de slogans comme « Mort aux Arabes », « Puisse vos villages brûler ».
Sharon Casper appartient à un collectif qui se fait appeler Free Jerusalem. Avec ses amis, elle documente et dénonce les violences envers les Palestiniens.
En tant que juif, c'est difficile d'assister à ce qui ressemble à un pogrom. J'ai grandi à Jérusalem dans une famille religieuse. Plusieurs personnes mobilisées contre cette journée le font parce qu'elles ont très honte de leur communauté. Avant, on se disait que le jour de Jérusalem était le jour de la libération de la ville. Ça n'allait pas plus loin. On ne savait pas ce qu'était l'occupation. On ne nous apprend pas cela. On vous apprend que ce jour marque l'unification de Jérusalem, mais pas les implications.
Toute la journée, ces militants auront essuyé coups, cris et crachats avant de rentrer chez eux avec la satisfaction du devoir accompli. Amira Sulem, de retour de Jérusalem, RFI.
Une journée de Jérusalem à l'issue de laquelle a pris la parole le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a promis de ramener tous les otages vivants ou morts retenus par le Hamas à Gaza. Déclaration qui intervient alors que la pression s'accentue sur Israël qui a encore massivement frappé Gaza. Hier, au moins 52 personnes sont mortes ce lundi selon les secours locaux. Je ne comprends franchement pas ce que l'armée israélienne fait à Gaza, a dénoncé le chancelier allemand Friedrich Merz. Lors d'une rare sortie contre ses alliés israéliens, il a menacé de ne plus soutenir le gouvernement Netanyahou.
Friedrich Merz, décidément à la manœuvre et sur tous les fronts.
Notamment celui de la guerre en Ukraine. Il a également annoncé qu'il n'y avait désormais plus de limite de portée pour les armes livrées à l'Ukraine par l'Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. L'Ukraine qui vise des sites militaires, entrepôts ou manufactures d'armes russes largement au-delà de la frontière. Friedrich Merz n'a en revanche pas précisé si son pays allait fournir les fameux missiles longue portée Taurus à Kiev.
Et ces déclarations du chancelier allemand, on en reparle dans la revue de presse, juste après ce journal avec Frédéric Couteau. Martin, les célébrations du 20e titre de l'histoire de Liverpool virent au drame en Angleterre.
Où les témoins décrivent des scènes d'horreur après la parade des coéquipiers de Mohamed Salah au bord de la Mersey ce lundi. Une voiture bélier a foncé dans la foule, 47 personnes ont été blessées, 4 sont encore dans un état grave. Un acte isolé qui n'est pas du terrorisme, a dit la police. Le conducteur de la voiture, un Britannique de 53 ans, a été arrêté. Ce qui s'est passé est épouvantable, a réagi le Premier ministre Keir Starmer, assurant à la ville la solidarité du pays tout entier.
Direction le Vietnam, suite et fin de la visite d'Emmanuel Macron dans le pays ce mardi.
Après la signature de 9 milliards d'euros de contrats commerciaux hier, le président français avait ce mardi rendez-vous avec la jeunesse vietnamienne, Hanoï, où l'on retrouve notre envoyé spécial Nicolas Roca. Bonjour Nicolas.
Bonjour Martin.
Emmanuel Macron qui a rencontré des étudiants aujourd'hui, Nicolas.
Oui, à l'Université des sciences et des technologies d'Hanoï, fruit d'un projet commun entre les deux pays. Il a prononcé un long, très long discours évoquant l'instabilité géopolitique, le changement climatique, l'intelligence artificielle, la guerre commerciale. Il a tracé sa ligne, celle d'une France qui se dit vouloir être un partenaire respectueux de la souveraineté des pays, alternative à la Chine, aux États-Unis, mais aussi à la Russie. Sans jamais nommer directement le pays, il a multiplié les allusions à Moscou, historiquement très proche du Vietnam. Après un déjeuner avec des acteurs de la culture, il va décoller vers l'Indonésie dans les prochaines heures.
Jakarta, où les sujets abordés tourneront autour de la défense et de l'énergie.
Oui, avec de nombreuses inconnues, notamment dans le domaine militaire. L'Indonésie a déjà acheté 2 sous-marins Scorpène, 42 Rafale. Mais des questions se posent en Indonésie sur les capacités de l'avion de chasse après que le Pakistan affirme en avoir abattu 3. Une affaire qui reste très floue, sans éclaircissement officiel de l'Élysée pour l'instant. On imagine que le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, qui sera présent, viendra rassurer ses partenaires indonésiens. Des accords vont être signés dans son domaine, mais aussi dans celui de l'énergie, des minerais critiques. Un échange avec des étudiants est également prévu à Jakarta demain, avec certainement de nombreuses questions sur la guerre à Gaza, un sujet central dans le pays musulman le plus peuplé au monde.
Merci Nicolas Roca. Vous suivez donc la tournée présidentielle d'Emmanuel Macron en Asie du Sud-Est, tournée qui se poursuit jusqu'à vendredi.
Place désormais à notre dossier dans ce journal. Elon Musk quitte Washington par la petite porte.
Le patron de SpaceX et de Tesla arrive au terme de son mandat à la tête du Doge, le département de l'efficacité gouvernementale. Elon Musk va prendre ses distances avec l'équipe de Donald Trump pour retourner à ses affaires et on appelle notre correspondant à Washington, Guillaume Nodin. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, on va dresser avec vous le bilan du court passage d'Elon Musk à la tête du Doge. Cette structure est créée pour rétrécir drastiquement le budget et dégraisser la fonction publique fédérale américaine.
Oui, et pour cela, il faut revenir à l'objectif initial du Doge. Et cet objectif était chiffré pendant la campagne électorale. C'était 2000 milliards de dollars de dépenses en moins. Objectif rapidement divisé de moitié à 1000 milliards de dollars. Cela restait ambitieux. Et d'ailleurs, selon les propres chiffres du Doge, ce sont 160 milliards de dollars qui ont été économisés depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Mais selon les médias qui ont tenté de vérifier ces informations, il y a quand même un doute sur la réalité d'une partie de ces économies et les chiffres avancés ne sont pas très précis.
Mais le projet du Doge, ce n'est pas que l'argent, Guillaume.
Non, il fallait aussi réduire la taille de l'État fédéral. En tout, ce sont à peu près 100 000 emplois de fonctionnaires fédéraux qui étaient visés. Dans certains cas, ils ont été supprimés purement et simplement, comme dans le cas du démantèlement de l'USAID, l'Agence américaine de développement international. Dans d'autres cas, des personnes ont été licenciées sans trop de discernement, comme les gens chargés par exemple de gérer le stock d'armes nucléaires américaines qui ont été rapidement réembauchés. D'autres licenciements sont aussi bloqués en justice. Et puis, il y a l'aspect modernisation technologique. Et là, le Doge a mis la main sur les données de différents départements, notamment le fisc américain ou encore la sécurité sociale. L'occasion de croiser les données, tout cela, même si Elon Musk s'éloigne, va avoir des conséquences sur le long terme.
Voilà pour le Doge, mais concernant Elon Musk lui-même, quel bilan peut-on dresser ?
Eh bien, sans doute s'est-il rendu compte que la politique américaine était un univers impitoyable. Il est de notoriété publique qu'il a eu des prises de bec avec des membres éminents de l'administration, avec Marco Rubio, le secrétaire d'État à qui il reprochait de n'avoir viré personne. Donald Trump a dû dire publiquement que c'était aux ministres de décider comment réorganiser leur département et leurs effectifs. Prise de bec aussi avec Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui n'était pas son candidat et dont il a contesté la politique, notamment sur les droits de douane. Là aussi, Elon Musk a perdu.
Elon Musk qui a perdu donc du crédit politique, mais a-t-il perdu de l'argent et est-il toujours l'homme le plus riche du monde ?
Oui, selon les sites spécialisés dans le suivi de la fortune des grands de ce monde, il est encore le numéro 1, même si sa fortune a baissé de plus de 100 milliards de dollars depuis le début de l'actuel mandat présidentiel, en raison notamment de la baisse de l'action du constructeur automobile Tesla, dont il détient environ 12% des parts et qui a souffert notamment en raison de la baisse des ventes et des réactions négatives à ses actions et à ses prises de position politiques à l'extrême droite et parfois complotistes. C'est aussi pour tenter de redresser la situation de ses entreprises qu'il s'éloigne, mais comme la valeur de ses actions avait explosé entre l'élection de Donald Trump et son investiture, cela va encore assez bien financièrement pour Elon Musk.
Merci Guillaume Nodin, correspondant de RFI à Washington.
RFI 7h10 à Dakar et Bissau où le président sénégalais était en visite.
Une première visite d'État d'un président sénégalais depuis l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1973. Bassirou Diomaye Faye était ce lundi à Bissau à l'invitation du président Omaro Sissoko Embalo au programme des discussions sur de futurs accords bilatéraux entre les deux pays voisins. Des voisins en bonne entente, Bassirou Diomaye Faye a été accueilli en grande pompe par une foule enthousiaste. Correspondance d'Alain Hiro Embalo.
De mémoire de Bissau-Guinéa, jamais un chef d'État étranger n'a été aussi ovationné le long des 8 km qui séparent l'aéroport du centre-ville. Drapeau sénégalais et Bissau-Guinéa à la main, des milliers de jeunes ont suivi le cortège avec joie.
La Guinée-Bissau et le Sénégal appartiennent à la même nation. Nos liens datent d'avant la colonisation. Nous constituons une même famille. C'est pour cette raison que nous sommes massivement sortis pour accueillir le président Diomaye.
Diomaye est un jeune président aimé par tous. Nous attendons de lui une bonne collaboration avec le nôtre. C'est pour cette bonne raison que je suis venu lui témoigner ma satisfaction.
Ce déplacement, le président Bassirou Diomaye Faye l'a placé sous le signe de renforcement des liens historiques, de coopération, d'amitié et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Nos peuples sont inséparables parce que nous sommes liés par l'histoire, liés par la géographie, liés par la culture. Ce moment que nous partageons ensemble traduit assurément la qualité exceptionnelle des relations d'amitié fraternelle et de bon voisinage entre le Sénégal et la Guinée-Bissau.
Les entretiens approfondis entre les deux chefs d'État se sont penchés sur des accords bilatéraux existants concernant la gestion de la frontière commune, la libre circulation, l'agriculture et la transformation des produits locaux. Alain Hiromba, le Bissau, RFI.
En France, le parti à la rose se cherche un nouveau leader.
Une rose un peu fanée pour le parti socialiste qui ne compte plus que 40 000 adhérents, là où cette formation historique en revendiquait 7 fois plus il y a 20 ans. Les militants du PS auront le choix entre 3 noms pour le nouveau premier secrétaire du parti, soit l'actuel Olivier Faure, soit le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ou alors le député Boris Vallaud, les deux premiers qui sont annoncés favoris, Victorien Villaume.
Sauf surprise, c'est entre Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol que tout devrait se jouer. Le député Boris Vallaud est considéré comme le troisième homme n'ayant pas réussi à fédérer autour de lui autant que ses deux concurrents. Il va faire entre 15 et 20%, prédit un ténor socialiste. Le maire de Rouen espère donc prendre sa revanche sur Olivier Faure. Il faut qu'on arrive largement en tête au premier tour si on veut que Boris Vallaud se rallie à nous, commente un soutien de Nicolas Mayer-Rossignol qui assure qu'une majorité de militants socialistes souhaitent le changement. Mais dans le camp du premier secrétaire sortant, on prédit également une victoire, au terme certes d'une lutte serrée. Sur le fond, les principales divergences entre les deux favoris tournent autour de 2027. Les antiforts veulent à tout prix un candidat PS pour porter la gauche, là où le premier secrétaire propose plutôt une primaire qui irait de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, sans Jean-Luc Mélenchon.
Et l'élection aura lieu ce soir entre 17h et 22h, heure française.
Enfin, Roland-Garros, Martin, le monde du tennis se prend de passion pour un ado brésilien.
Il se rêve footballeur et il affole aujourd'hui les réseaux sociaux et les allées du tournoi parisien. Le visage encore poupon, João Fonseca n'a que 18 ans mais déjà un sacré talent. Le natif de Rio est un petit phénomène et affrontera tout à l'heure le polonais Hubert Hurkacz avec le statut de tête de série numéro 30. João Fonseca, espoir de tout un pays qui voit en lui le successeur d'un certain Gustavo Kuerten. Baba Cardira.
João Fonseca, une nouvelle coqueluche pour les Brésiliens prêts à traverser l'Atlantique pour un retour vers le futur. 24 ans après le troisième et dernier Roland-Garros remporté par Gustavo Kuerten, Macio vient de Salvador de Bahia juste pour ça.
Fonseca, pour nous les Brésiliens, c'est comme Ayrton Senna. Il incarne un nouvel espoir de voir un sportif brésilien briller comme lui. Encore plus que Guga.
Sur la popularité, l'ado aux cheveux bouclés égale Guga. Son compte Instagram affiche déjà 1 million de suiveurs. Des fans conquis par son Open d'Australie, où il a crevé l'écran en janvier, en balayant 3-7 le russe Andrei Rublev pour son premier match en Grand Chelem. João Fonseca.
C'était mon premier match face à un joueur du top 10 pour mon premier Grand Chelem. Je pense qu'après ce tournoi en Australie, beaucoup de choses ont changé. J'ai plus d'expérience maintenant dans ce type d'environnement.
Comme Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, Fonseca s'est adjugé à 18 ans le tournoi Next Gen dédié aux jeunes promesses. La voie tracée vers une place de numéro 1 mondial comme ses deux aînés, le roi de la terre battue Rafael Nadal approuve.
Son avenir s'annonce radieux. Je l'ai rencontré à deux reprises. Il a l'air d'avoir un entourage sain, d'être bien éduqué. J'espère sincèrement qu'il aura un futur brillant.
Des éloges loin d'être anodins pour le cadet du tableau masculin.
Le joyau brésilien, Joao Fonseca, qui entrera sur les cours dans l'après-midi face au Polonais Hubert Hurkacz pour son premier tour.
Merci Martin Guez, RFI 9h15, à Paris tout de suite la presse. À la une, Frédéric Couteau, l'Europe hausse le ton face à la Russie.
Oui, et surprise, c'est le chancelier allemand Friedrich Merz qui est à la manœuvre, c'est ce que constate le Figaro à Paris. Les alliés occidentaux ne fixent plus de limitations à la portée des armes qu'ils envoient à l'Ukraine. Par cette déclaration, le chancelier allemand ouvre un nouveau chapitre du soutien militaire européen à Kiev, et ceci au moment où la position de Washington à l'égard du conflit reste des plus nébuleuses et où la Russie intensifie ses attaques nocturnes sur le territoire de son voisin. Cela signifie que l'Ukraine peut désormais se défendre, par exemple en attaquant des positions militaires en Russie, ce qu'elle ne faisait pas il y a quelque temps, à quelques exceptions près. Elle peut le faire maintenant, a donc déclaré hier le dirigeant allemand. Commentaire de Die Welt à Berlin, soudainement l'Allemagne apparaît comme un pays qui veut montrer la voie en matière de politique de sécurité en Europe et qui, si nécessaire, prendra de nouvelles décisions concernant le soutien à l'Ukraine en alliance avec la Grande-Bretagne, la Pologne et la France. L'Allemagne, décrite il y a peu comme faible et en crise par le chef de l'opposition d'alors, Friedrich Merz, est maintenant perçu par le même Friedrich Merz, désormais chancelier, comme un pays pilier de la sécurité européenne.
L'Ukraine pourrait donc utiliser des armes fournies par ses alliés européens pour frapper la Russie en profondeur.
Le conditionnel reste de rigueur pour le monde à Paris. Aucun des pays concernés n'a pour l'instant confirmé cette évolution de la doctrine militaire qui aurait des conséquences potentielles importantes pour la suite du conflit. Friedrich Merz n'a pas spécifié si ses propos auraient une incidence sur les armes livrées à l'avenir par Berlin à l'Ukraine, en particulier concernant les missiles de longue portée Taurus. Avant son entrée en fonction début mai, rappelle Le Monde, il s'était dit favorable à la livraison de ces missiles d'une portée de plus de 500 km, permettant donc d'atteindre le territoire russe en profondeur. Mais depuis, il s'est montré plus ambigu, soulignant qu'il ne détaillerait plus les armes qu'il enverrait à l'Ukraine pour des raisons stratégiques, et ce, afin de ne pas en informer Moscou.
En attendant une éventuelle fourniture à l'Ukraine de ces missiles longue portée, il faut accentuer la pression sur la Russie sur le plan économique.
C'est du moins ce que préconise le Times à Londres, puisque Vladimir Poutine ne semble voir aucun avantage à mettre fin au combat. La seule façon envisageable de l'amener à la table des négociations est d'exercer une pression croissante et ciblée sur Moscou. Si Donald Trump croit encore en sa mission de médiation, il doit à la fois élargir et renforcer les sanctions financières et les interdictions de voyager contre les responsables du Kremlin, les dirigeants du secteur bancaire et du secteur de l'énergie. Surtout, il doit les affiner de manière à ce que l'économie russe souffre plutôt qu'elle ne profite de la poursuite de la guerre. Déjà un premier pas, note le Times, le Sénat américain doit examiner cette semaine un projet de loi sur les sanctions secondaires pour punir les pays qui achètent du pétrole et du gaz russe. Au cours des trois dernières années, des flottes fantômes échappant aux sanctions ont en effet contribué à générer les fonds nécessaires au maintien de l'armée russe. Ces profiteurs pourraient donc bientôt être touchés, perdant leur marché aux États-Unis et dans une grande partie du reste du monde.
À la une également, la situation humanitaire catastrophique à Gaza.
Gaza, injustifiable, titre Libération en première page. Libération qui publie une tribune signée par 300 écrivains, parmi lesquels plusieurs prix Goncourt ainsi qu'un prix Nobel. Nous ne pouvons plus nous contenter du mot horreur. Il faut aujourd'hui nommer le génocide à Gaza, affirme-t-il. Enfin, à lire cette autre tribune dans le quotidien israélien Haaretz, signé Ehud Olmert, ancien premier ministre et prédécesseur de Benjamin Netanyahou, ce que nous menons actuellement à Gaza est une guerre de dévastation, écrit-il. Oui, Israël commet des crimes de guerre. Le gouvernement Netanyahou est désormais un ennemi de l'intérieur. Il a déclaré la guerre à l'État et à ses habitants. Il est temps d'arrêter, s'exclame encore Ehud Olmert, avant que nous ne soyons tous bannis de la famille des nations et convoqués devant la Cour pénale international pour crimes de guerre sans aucune défense valable. Ça suffit.
La revue de presse internationale sur RFI avec Frédéric Couteau.
RFI à Bucarest, 88.8. 93.5 FM.
Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, parmi les pays stratégiques, remparts défensifs des alliés de Kiev face à la menace russe, il y a la Roumanie. Dans le sud-est, près de la mer Noire à Constanța, se trouve une importante base militaire. Un vaste chantier y a été lancé avec l'objectif à terme d'en faire la plus grande base militaire de l'OTAN en Europe. Mais c'est sans compter sur un possible retrait des troupes américaines du continent. L'inquiétude est présente face au revirement récent de l'administration Trump. Marine Le Duc s'est rendue sur place à Constanța. Reportage.
Tractopelles, pelleteuses et camions enchaînent le travail dans une chorégraphie minutée. Ici, à Mihalko-Golnicianu, à 30 km de la mer Noire, la grande base aérienne de l'OTAN est en plein chantier. Une nouvelle piste aérienne est en construction et devrait voir le jour dans 2 ans. Le commandant de la base, le général Nicolae Crețu, montre les avancées des travaux.
On espère que cet été, nous allons commencer à couler le béton. Ce que vous voyez là-bas, les marquages rouges, sont les systèmes de balisage de la piste.
Cette implantation militaire, laissée en désuétude après la période communiste, a d'abord accueilli des soldats américains en partance pour l'Afghanistan et l'Irak. Après l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014, elle est devenue un avant-poste de l'Alliance Atlantique face à la menace russe. Alors que la guerre fait rage en Ukraine voisine depuis 2022, les capacités se sont renforcées. La Roumanie est aux premières loges face à la menace russe et des drones qui visaient l'Ukraine ont parfois atterri sur le territoire roumain dans le delta du Danube. Face à ces menaces, les États-Unis demeurent le premier partenaire militaire et stratégique de la Roumanie. Si bien qu'un autre sujet enflamme les discussions, même chez les habitants de Mihalko-Golnicianu, celui du possible retrait des troupes américaines en Europe, qui serait discuté par l'administration Trump. Le ministère roumain de la Défense a toutefois démenti ces propos. Pour Christy, un restaurateur de 42 ans qui a grandi ici, les discours du président américain amènent beaucoup de confusion.
Aujourd'hui tu es avec moi, demain tu n'es pas avec moi. Que les Américains nous disent clairement ce qu'ils prévoient, ce qu'ils veulent faire de ce pays, pour qu'on sache à quoi s'en tenir.
À Constanța, la grande ville portuaire située à une vingtaine de kilomètres, les cargos attendent de charger les céréales ukrainiennes. Dorin Popescu, analyste en géopolitique de la mer Noire et ancien ambassadeur à Moscou, ne pense pas que le projet d'agrandissement de la base sera abandonné.
J'ai du mal à croire qu'une alliance aussi forte et solide soit capable de laisser les choses à mi-chemin à un moment donné. Cela créerait ou augmenterait un déficit de sécurité de l'Europe et ce n'est pas non plus dans l'intérêt des Américains.
La Roumanie investit donc de plus en plus dans la défense. En 2024, le budget s'est élevé à 8 milliards d'euros, soit 25% de plus que l'année précédente. Marine Le Duc, Constanța, RFI.
Ce reportage à écouter en entier aujourd'hui dans notre émission Accent d'Europe, 17h10, temps universel, et à retrouver aussi sur notre site internet à la rubrique Accent d'Europe. Ces revirements américains dont on parlait, qui malmènent les alliés historiques de Washington à l'image du Canada, voisin des États-Unis, régulièrement cible de menaces de Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche. C'est dans ce contexte que le roi Charles III, actuel chef d'État officiel du pays, va tenir aujourd'hui en personne le traditionnel discours du trône qui marque l'ouverture de la session parlementaire au Canada. C'est le tout nouveau Premier ministre canadien, Mark Carney, qui l'a invité. Nafi Alibert, vous êtes notre correspondante au Canada. Alors Nafi, concrètement, quelle image ont les Canadiens de la couronne britannique ?
Disons qu'elle perd de son lustre un peu partout au Canada, mais qu'elle a carrément perdu tout son éclat au Québec. Et un sondage publié hier en une d'un grand quotidien montréalais est sans appel. 9 Québécois sur 10 n'ont aujourd'hui plus aucun attachement à la monarchie. Alors historiquement, la province n'a jamais vraiment vibré pour la couronne. Elle reste pour beaucoup un vestige colonial jamais digéré, le symbole de la domination britannique sur les francophones. Et ce rejet, il s'est déjà manifesté très concrètement. Par exemple, en 2011, quand William et Kate, qui sont les petits chouchous de la royauté au Canada, sont venus. Ils avaient été accueillis à Montréal et à Québec par des slogans « Abat la monarchie » et « Parasites, rentrez chez vous ». Plus d'une décennie plus tard, le message n'a pas changé. Pour beaucoup de Québécois, la monarchie est archaïque et inutile.
Et Nafi, ce n'est pas juste une question d'émotion, il y a aussi la facture imposante dans un contexte économique tendu.
Oh que oui. Et pour vous donner une idée, la monarchie a coûté aux Canadiens près de 71 millions de dollars en 2023-2024. Pourquoi ? Ben parce que le roi, il a des représentants sur place. Il y a une gouverneure générale à Ottawa, mais aussi 10 lieutenants-gouverneurs, un par province, qui incarnent la couronne ici au quotidien. Et il faut les payer. Chaque visite royale, elle aussi, est facturée aux contribuables. Ici, le Parti québécois crie à l'absurdité. Et pour son chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, la venue de Charles III et de Camilla, c'est tout simplement une visite inutile, un rappel selon lui de ce passé colonial hostile aux francophones mais aussi aux autochtones du Canada. D'ailleurs, il y avait des dizaines de dirigeants des Premières Nations qui se sont rassemblés hier devant le Parlement à Ottawa pour appeler au roi de respecter les traités et de ne pas leur dicter leur mode de vie.
Et ils étaient quand même très nombreux hier à attendre le souverain à Ottawa.
Ils étaient effectivement des milliers de curieux là pour accueillir le roi, comme quoi la monarchie divise, mais elle fascine encore. Et dans quelques heures, c'est dans un carrosse tiré par 28 chevaux que le roi fera son entrée au Parlement. Une image qui semble quelque part tout droit sortie d'un autre temps. Et pourtant, si le roi est là, c'est bien pour marquer un honneur historique, selon les mots du nouveau Premier ministre Mark Carney. C'est lui qui l'a invité à prononcer le discours du trône, ce discours qui ouvre la session parlementaire et dévoile les grandes priorités du gouvernement. C'est un geste très symbolique puisque le discours a été écrit par l'équipe de Mark Carney lui-même. Mark Carney qui a dit vouloir, à travers cette image forte, réaffirmer aussi la souveraineté du Canada dans un climat diplomatique qui reste tendu avec les États-Unis.
Nafia Libert, correspondante d'RFI au Canada. Merci beaucoup à vous. 9h25 à Paris. On passe à notre question d'environnement.
RFI Matin.
Et on s'intéresse aujourd'hui aux turbulences en avion. Vous y avez forcément déjà été confronté. Mais aujourd'hui, on en parle après une catastrophe évitée de peu en Inde. Un vol intérieur qui a bien failli se terminer très mal en raison de turbulences anormalement intenses. L'avion a même dû se poser en urgence. Simon Rosé, on va regarder cet incident de près avec vous d'un point de vue environnemental. Est-ce que les turbulences sont plus graves qu'avant ?
Et pour une fois, la réponse est simple, c'est oui, car le changement climatique modifie le comportement de l'atmosphère. Les différences de température entre les niveaux d'altitude sont plus marquées, typiquement entre 9 et 15 km, où se trouve notamment l'altitude de croisière des avions. Et cela a des conséquences sur la vitesse des vents, qui est de plus en plus hétérogène. Ça donne ce qu'on appelle des vents de cisaillement. Bref, ça souffle fort dans un sens, puis dans un autre, ça fait des dépressions locales, et on n'a pas envie de traverser ça en avion.
Mais concrètement, ça peut s'anticiper. Les contrôleurs aériens peuvent dire aux pilotes d'éviter les zones où ça se produit.
Oui, on peut bien évidemment repérer les zones de tempête, mais il y a un phénomène qui est bien plus vicieux, ce qu'on appelle les TAC, les turbulences en air clair. C'est un ciel sans nuages, c'est invisible au radar et ça tape sans prévenir. Et on le disait, les TAC, elles sont de plus en plus fréquentes. Une étude a démontré qu'elles avaient augmenté de 55% entre 1979 et 2020 au-dessus de l'Atlantique Nord. Et comme elles sont plus fréquentes à proximité des grands courants atmosphériques, les courants jet, leur répartition, elle n'est pas uniforme autour de la planète. Sur le même laps de temps, elles ont augmenté ces TAC entre 60% et 155% au-dessus de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient ou encore de l'Asie du Sud-Est. Les avions en affrontent près de 70 000 par an désormais et on en anticipe une dizaine de milliers supplémentaires d'ici 50 ans.
Bon, mais ça, c'est uniquement donc pour ces turbulences en air clair dont vous parliez.
Oui, il faut en effet y ajouter les turbulences classiques, entre guillemets, liées à des orages ou à des systèmes dépressionnaires. Pour le coup, la science est moins claire aujourd'hui sur les conséquences du réchauffement climatique quant à l'évolution de leur nombre. On anticipe, même si ça reste à préciser donc, qu'il n'y aura pas forcément beaucoup plus de gros orages de grêle à l'avenir. En revanche, on est à peu près certain qu'ils seront bien plus violents. Mais là, vous le disiez, ces orages sont plus facilement prévisibles et donc évitables. Reste que le ciel devient de plus en plus agité avec le réchauffement climatique, avec les conséquences que cela peut avoir sur la sécurité des humains, même à 35 000 pieds d'altitude.
Merci, c'était Simon Rosé du service climat-environnement d'RFI. C'était notre question d'environnement à suivre comme chaque matin sur notre antenne. On reste ensemble dans un petit peu plus d'une minute. Le retour de l'information africaine sur RFI. On se retrouve juste après pour le journal des sports. Ensuite, ce sera notre reportage Afrique et puis notre dossier Afrique économique. Alors que que le Sénégal accueillera dans moins de 2 ans les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ce sera donc en 2026 une première en Afrique. On va voir comment le pays se prépare. Sera-t-il prêt? C'est notre dossier à suivre donc dans un petit quart d'heure. Restez avec nous sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Hospitalité, convivialité et création. Depuis 60 ans, à Paris, la Cité internationale des arts accueille des artistes du monde entier et les accompagne dans leurs projets. Nous fêterons cet anniversaire avec la chinoise Shu Hui, la péruvienne Keise Valos et avec la directrice des lieux, Bénédicte Alliou.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.
Le festival aux quatre coins du mot célèbre le mot sous toutes ses formes du 28 mai au 1er juin sur le site historique de la Charité-sur-Loire. Au programme de cette 20e édition, spectacles, rencontres, jeux, expositions, visites insolites, installations sonores et ateliers sur le thème « Enquête ». Les mots résonnent en bord de Loire. Plus d'informations sur citedumot.com en partenariat avec RFI.